Voilà, bonsoir. Nous allons continuer notre grande aventure dans la Bible. Je rappelle le parcours. Nous avons commencé, ce n'est pas un hasard, par étudier quelques aspects de la conjugalité. Donc ce qui est premier, c'est la conjugalité. Ensuite, nous avons suivi Abraham dans l'élaboration de sa paternité. Nous avons laissé un petit peu de côté Sarah, nous avons réfléchi à la paternité d'Abraham qui se greffe très profondément sur sa conjugalité, même si c'est un aspect que nous avons moins développé. Dans un troisième temps, aujourd'hui, nous allons étudier une des relations les plus importantes qui affectent notre identité profonde, que nous en soyons conscients ou non, à savoir notre relation, nos relations à nos frères et à nos sœurs. Donc le titre de cette intervention, le titre un peu théorique, c'est « Devenir frère, des liens à recevoir et à élaborer intelligemment ». Et le titre plus inspirant, c'est une petite parole de Joseph, « Mes frères, moi, je cherche ». Mes frères, je cherche, dans le livre de la Genèse. Et nous allons non pas parler de la fraternité in abstracto, même si nous aurons certaines envolées ou approfondissements théoriques, mais nous allons suivre l'histoire de Joseph. Tout d'abord, comme introduction à la fraternité, donc vous avez tout le plan au tableau, j'espère que je ne le cache pas trop. Comme petite introduction, je voudrais que nous puissions faire mémoire de nos propres relations fraternelles avec nos frères et sœurs, qu'il faut le dire, est avant tout source d'immense bonheur et de joie, source de vie, et qui a fait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus profondément notre identité que nous ne pensions. Tout n'est pas simple pour autant. Les relations entre frères et sœurs sont traversées par de multiples conflits, déclarés ou étouffés, avec leur cortège de violences plus ou moins rentrées. L'aîné doit apprendre à partager avec les plus jeunes non seulement son espace, son temps, ses jouets, mais également la tendresse de ses parents, le temps de ses parents, la reconnaissance de ses parents. Les plus nés font leur possible pour se faire une place et mettent en œuvre à cet effet une série de stratagèmes conscients et inconscients. De leur côté, les parents sont appelés à aimer infiniment chacun de leurs enfants. Aimer infiniment chacun de ses enfants ne signifie pas les aimer de la même manière. Aimer des êtres différents, c'est aimer différemment. Au lieu de manifester autant d'affection à tous, conseille Adèle Faber et Hélène Malcy dans un manuel de psychologie très appliqué, montrez à chaque enfant que vous l'aimez spécialement. Tu es le seul, toi, dans le monde entier, personne ne pourra jamais prendre ta place. Les enfants n'ont pas besoin d'être traités tous pareils, mais d'être traités chacun spécialement. Fin de citation. Ainsi, c'est ça l'intuition de base que je voudrais suivre avec vous dans le grand récit de Joseph et de ses frères. La fraternité n'est pas un processus automatique. Elle est le fruit d'un travail, des libertés à l'intérieur d'un monde partiellement conflictuel. Donc reçue à la naissance, elle est aussi une tâche à mener avec intelligence aux différents âges de la vie, à reprendre sans cesse. Pour citer Paul Ricoeur, la fraternité est un projet éthique. Projet éthique, vous avez l'engagement de la liberté, et pas simplement un donné de nature. Elle implique un engagement volontaire, constant, au sein duquel le pardon occupe une place non négligeable. En ce sens, permettez-moi une petite phrase un peu provocatrice, on ne naît pas frère, on le devient. Tout à fait vrai, mais en même temps, c'est pour insister sur le fait que souvent on a l'impression que la fraternité, nos frères et sœurs, ce sont des dus et ils doivent spontanément nous comprendre et que cette relation doit aller d'elle-même. alors qu'on est d'accord de mettre beaucoup d'efforts pour que la relation avec notre collègue de bureau fonctionne bien ou avec notre conjoint, etc. Non, la relation avec nos frères et sœurs est aussi le fruit d'un travail, d'un engagement dans une histoire qui a ses hauts et ses bas, qui a ses moments de crise. La fraternité est une des plus grandes aventures de la liberté humaine, des libertés humaines. Tellement grande que on peut vraiment réfléchir à la fin ultime de la vie comme la communion en Dieu dans une immense fraternité. Les enjeux sont, mine de rien, beaucoup plus grands qu'ils ne puissent y paraître à première vue. Donc, pour rapprocher cette réalité, nous allons suivre ce soir l'itinéraire de Joseph et de ses frères, tel qu'il est raconté dans les chapitres 37 et 50 de ce merveilleux livre de la Genèse. Nous allons suivre l'évolution de la relation entre ses frères, et nous allons aussi nous poser la question du mode d'action de Dieu, du mode de présence. Souvenez, avec Caïn et Abel, Dieu était extrêmement présent. Il agissait apparemment très immédiatement. Là, il semble étrangement absent. Ou en tout cas, il a un type de présence qui ne se substitue pas au jeu des libertés, mais qui les promeut. Donc nous allons parcourir dans les deux prochains cours, ce cours-ci et le cours prochain, 14 chapitres dans le livre de la Genèse. Alors bien sûr, il ne faut pas, vous le savez bien, réduire, mais c'est la méthode que j'utilise un peu, réduire le texte, ces magnifiques chapitres, simplement à la problématique de la fraternité. Mais je les ai lus en leur posant une question précise, à savoir, qu'est-ce que ces 14 chapitres nous enseignent sur la grande aventure de la fraternité. Alors, commençons avec la situation initiale au point A, au chapitre 37, verset 1. Si vous avez votre Bible avec vous, c'est toujours utile. Je lis les versets 2 et 3. Voici l'histoire de Jacob. Donc, j'ai mis au tableau un rapide arbre généalogique. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob a une famille assez composite, d'accord ? Il a deux épouses, toute une histoire assez complexe entre ces deux épouses, qui sont deux sœurs rivales. Et chacune des épouses a fait appel aussi à une mère porteuse. Donc si vous voulez, il y a deux épouses légitimes, et puis deux épouses aussi légitimes, entre guillemets, mais enfin ce sont des aides à la procréation, si vous voulez. Et de sa deuxième épouse, Rachel aux beaux yeux, comme ça qu'elle est souvent nommée, deux fils vont naître, Joseph et Rachel. Et Benjamin, pardon. Oui, je me mélange moi-même. Oui. Donc, c'est une famille qui est assez composée, avec plein de demi-frères et demi-sœurs. Alors, je cite le tout début de la grande aventure. Voici l'histoire de Jacob. Jacob, d'accord ? Oui. Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, il était jeune, avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femmes de son père. Ces servantes qui ont été élevées à la dignité d'épouse. Joseph fit venir à leur père la rumeur sur eux comme mauvaise. Israël, c'est le nom de Jacob, hein, qu'il reçoit après son combat avec l'ange. Israël, c'est un nom aussi de mission, qui signifie fort contre Dieu. Israël aimait Jacob plus que tous les autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique ornée. Alors, je ne sais pas si vos oreilles n'ont pas teinté. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. Moi, je suis un aîné, d'accord ? Alors, mon père s'appelle Patrick, vous imaginez. Voici l'histoire de Patrick, hein, et puis on donne le nom du petit dernier. Il y a quelque chose d'intolérable. Vous êtes d'accord ? Ça ne va pas, hein, surtout dans la conception de l'époque. Voici l'histoire de Jacob, Joseph. On sent qu'il y a, y a quelque chose qui n'est pas en place. Bien sûr, les chapitres précédents du livre de la Genèse ont habitué le lecteur à voir surgir le fils au milieu de l'histoire de son père. Même si Isaac ne meurt pas avant le chapitre 35, cependant, la biographie de ses fils, Ésaü et Jacob, commence déjà au chapitre 25, à partir du chapitre 28. Isaac sort pratiquement de scène. Donc, en toute logique, jusqu'à un certain point, la vie du père est liée à celle du fils. Le fils entre en scène et tend à devenir protagoniste dans la vie du père. C'est la question de la génération. Pas simplement physique, c'est beaucoup plus vaste. L'étonnement du lecteur n'est donc pas d'abord provoqué par l'heureuse apparition d'un fils dans la vie de son père, au contraire, mais il est suscité par le fait qu'il s'agit de Joseph. Le petit dernier, Benjamin n'est pas encore né à ce moment-là. Les autres fils de Jacob seraient-ils de moindre importance? Sont-ils reconnus pour ce qu'ils sont? Sont-ils pas des fils de seconde zone? L'histoire de Jacob se réduirait-elle à celle du fils de Rachel? Est-il le seul à exister vraiment pour son père? En effet, selon ces versets, Joseph entretient une relation tout à fait privilégiée avec son père. Il est le préféré, on dirait aujourd'hui le chouchou, qui est aussi le fils de son épouse préférée. Souvenez, je vous en ai parlé la fois passée, il était amoureux de... Jacob était amoureux de Rachel, et puis, la nuit de ses noces, son beau-père Laban l'a trompé et lui a mis dans les bras son aîné, Léa. Donc, il était assez déçu, et il a retravaillé 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Donc, on peut comprendre qu'il y a une particulière attrait de cœur pour le fils alors ça a créé de Rachel. Et ça a créé évidemment beaucoup de... On aura l'occasion d'y revoir. Nous aurons un cours sur le transgénérationnel. On reviendra sur ces questions. Le signe le plus patent, c'est celui de cet habit magnifique confectionné à son intention. Il est revêtu d'une dignité, d'un statut sans égal, qui blesse continuellement ses frères, et sans doute aussi le lecteur que nous sommes. Le texte joue avec nous. Hein. On sait que le texte, c'est une sorte de monolithique. Donc il joue avec nous. Si vous lisez ce texte vraiment, vous devez être choqué. Enfin, vous pouvez être choqué de dire pourquoi est-ce qu'il se balade avec son habit, d'accord, princier, son habit, qui l'empêche d'effectuer des travaux au même rang que les autres. Jacob est injuste, c'est notre réaction spontanée. Et donc, ça réveille en nous, dans le lecteur que nous sommes, aussi des sentiments d'injustice qui sont parfois enfouis. Ensuite, Joseph n'est peut-être pas aussi innocent qu'il y paraît à première vue. Pourquoi va-t-il rapporter une méchante rumeur, 37.2, à son père à propos de ses frères? Pourquoi se promène-t-il avec sa tunique d'apparat au milieu de ses frères en travail? Le texte poursuit. Ses frères virent que c'est lui qu'aimait leur père plus que tous ses frères, et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler en paix. 37.4. Excusez-moi de citer le texte le plus proche de l'hébreu, mais vous allez voir que ça permet de saisir des nuances que les traductions ont parfois plus de mal à rendre. Ses frères virent que c'est lui qu'il aimait, leur père, plus que tous ses frères, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler en paix. Ils le prirent en haine. Mais qui est-ce qui prenait en haine? Vous allez me dire Joseph, bien sûr. Mais le texte, la construction grammaticale, selon les exégètes, disent que ça peut se rapporter aussi au père. Ils le prirent en haine, ils prirent le père en haine. Le texte, alors vous allez me dire, c'est qui, c'est le père ou c'est Joseph? Eh bien, on peut garder cette ambivalence et qui est assez significative. On peut même se poser la question dans quelle mesure ils ne se donnent pas la permission d'haïr leur père et que Joseph, en quelque sorte, leur haine vis-à-vis du père est détournée et tombe sur Joseph. Oui. Le texte joue dans ses ambivalences. Nous allons voir qu'à plusieurs reprises, nous ne devons pas nécessairement choisir une interprétation contre l'autre. Le texte reste ouvert. Il y a des interprétations qui ne sont pas correctes, mais il y a plusieurs interprétations qui peuvent coexister ensemble. L'expérience d'être moins aimé provoque de graves ravages chez les dix. Chacun doit se ruminer les questions suivantes, qu'il peine sans doute à se formuler distinctement. Pourquoi mon père ne m'aime-t-il pas au moins autant que Joseph? N'ai-je pas démérité quelque part? Quelle faute ou quelle erreur ai-je pu commettre? Ai-je réussi à me montrer à la hauteur de ses espérances? De plus, ne suis-je pas coupable de l'amour préférentiel que mon père porte à la mère de Joseph, aux dépens de ma propre mère, Léa, Bila ou Zilpa? L'enfant souvent se sent responsable de ses parents. Je veux dire, c'est les autres frères, mais si mon père aime davantage Rachel, encore que le texte montre que le cœur de Jacob est aussi plein d'ambivalence entre Léa et Rachel et les deux autres épouses. Hein, donc, tous ces sentiments, et bien d'autres encore sans doute, agitent les frères. Ils suscitent vraisemblablement chez eux une certaine dépréciation, une mésestime d'eux-mêmes, assortie de colère et de haine dirigée contre eux-mêmes. Or, pour éviter cette agressivité, éviter que cette agressivité les détruise, les dix réorientent cette dernière vers un objet extérieur, moins immédiatement menaçant pour leur identité. Le mécanisme est bien connu. Je dois vous avouer que quand je vois un arrêt de bus vandalisé, mon premier réaction, c'est de dire « c'est quand même... pas possible ». Dans un deuxième temps, je me dis, mais peut-être que ce arrêt de bus a rendu un service extraordinaire à des adolescents ou à des jeunes qui avaient une colère extraordinaire et qui l'ont sorti sur autre chose qu'eux-mêmes, hein, ou que des personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous, quand vous sortiez, taper sur un arrêt de bus, d'accord ? Mais oui, il y a ce mécanisme-là qui joue. Si papa nous délaisse, maman et nous, ne serait-ce pas à cause de Joseph avec lequel il partage une intimité excessive. Je vais donc transférer la haine que je mérite, entre guillemets, sur lui. Le texte biblique ne permet pas de vérifier pleinement cette hypothèse, qui révèle en grande partie de l'ordre psychologique, mais il ne les exclut pas non plus. Quoi qu'il en soit, les frères sont progressivement emportés par la haine. Alors, je voudrais ici faire une petite parenthèse, je passe au point 2. Mon frère, un autre, moi-même, une petite réflexion d'ordre anthropologique. Mon frère, un autre, moi-même. Paradoxalement, cette haine du frère appartient à la construction de l'identité de chacun. Ou, plus précisément, elle révèle d'un certain détournement, d'une certaine corruption, transformation négative de ces mécanismes fondamentaux. Qu'est-ce à dire? Alors, je pense que tous, à un moment ou à un autre, tout au long de notre vie, on se pose la question, enfin, je ne sais pas jusqu'à un certain point, je me souviens un enfant de 11 ans qui est venu un jour me dire, moi, qui je suis, hein? Il s'est posé vraiment cette question-là. Je n'ai pas répondu, j'ai dit, je ne sais pas, puis il est parti. Et donc, je l'ai invité à réfléchir. Hein? Qui suis-je? On se pose... C'est une des questions fondamentales. Bon, bien sûr, on peut donner quelques-unes de caractéristiques, on peut même, c'est plus facile de répondre à qu'est-ce qu'on possède que qui suis-je profondément. Et quel est notre parcours professionnel, etc. Mais qui suis-je en profondeur? Et cette question est intimement liée à qui est l'autre. Toute ma vie, je suis invité, sollicité, avec différentes façons, à répondre à ces deux questions qui sont à la fois joyeuses et angoissantes. Or, voilà qu'un frère ou plusieurs me sont donnés. Il s'agit de quelqu'un d'autre que moi. Mon frère, ma sœur, c'est vraiment quelqu'un d'autre que moi. Et en même temps, quelqu'un de semblable à moi. D'un côté, en effet, nous partageons la même origine, les mêmes parents, le même nom de famille. Encore que chez Joseph, vous voyez, les mêmes parents, il y a du jeu quand même. Certains traits de caractère analogues, certaines ressemblances physiques. La même table et souvent la même chambre. D'un autre côté, mon frère, ma sœur, porte un prénom différent, un âge différent, mange à une autre place que moi, à table, dort dans un autre lit, possède son histoire propre et entretient des relations spécifiques avec nos parents. Mon frère, ma sœur est donc une image de moi qui n'est pas moi. Saisissez ce mécanisme. Un moi-même autre, un double de moi qui existe indépendamment de moi, selon son mode propre. Quand je le regarde, je vois à la fois qui je suis et quelqu'un d'autre. L'autre de mon je est en réalité un je autre. Peu importe, hein, formule. L'autre de mon je est en réalité un je autre. Mon frère, ma sœur contribuent ainsi puissamment à l'élaboration de mon identité dans ce qu'elle a d'unique, de singulier, de propre, d'intime, ainsi que dans sa capacité à entrer en relation avec quelqu'un d'autre que moi. Au fil des mois et des années, l'enfant grandit donc en référence continuelle avec ses frères et ses sœurs. D'une part, consciemment ou non, il tâche de leur ressembler, de devenir comme eux, de s'approprier leurs jouets. Les disputes entre frères et sœurs, c'est quelque chose. Hein. Finalement, ce n'est pas le jouet, le Playmobil qu'on veut, c'est on veut ce qu'a l'autre. Hein. Dès que l'autre ne veut plus ce Playmobil-là, il devient beaucoup moins intéressant. De posséder leur adresse physique, leurs multiples qualités, d'entretenir les mêmes relations avec les personnes de leur entourage. Bref, l'enfant tente de faire sien ce qui a de la valeur aux yeux de ses frères et sœurs. En même temps, il a également besoin de s'en distancier, avec plus ou moins d'agressivité, pour découvrir ce qui lui est propre. Une sorte de... Que l'enfant, et plus tard l'adulte, le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, ses frères et sœurs font partie de sa structure interne, de son être de relation. Et ça, c'est toujours, je l'ai dit dès le premier cours, c'est toujours une question moi, qui m'habite, comment se conjuguent identité et relation. Identité et relation. Je suis moi et en même temps, je suis essentiellement relation et en même temps, je suis essentiellement moi-même. Et comment les choses vont ensemble, comment elles se constituent aussi ensemble. Et les frères et sœurs ont une place tout à fait privilégiée. Ce processus qui met en œuvre les énergies, les pulsions de l'éros et du thanatos est normal et bon. C'est en ce sens que Marcel Ruffaut fait l'éloge de la jalousie. Je cite Marcel Ruffaut. La jalousie est le ciment du narcissisme de l'image de soi. C'est par elle que chacun de nous se construit. Elle aiguillonne le désir de savoir et stimule la recherche de soi, puisque soi ne sera jamais l'autre, puisque soi doit vivre aux côtés de l'autre. L'autre, le frère, la sœur, permet à chacun de mieux se définir par le jeu des ressemblances et des différences. Il ouvre à la relation non seulement avec autrui, fin de citation, avec autrui, donc ce jeu, mais aussi avec soi-même comme autre, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Ricoeur. Alors, pour ma part, je préfère faire l'éloge non pas de la jalousie, mais du désir de ressemblance et de différenciation. Je réserve le terme de ambigu de jalousie et de haine à la perversion de ces désirs vitaux, à leur contamination par le mystère du mal. Tel est le drame mis en scène dans l'histoire de Joseph et de Jacob. C'est pour ça que je préfère dire que la jalousie, c'est toujours mauvais. Toujours. La rivalité, non. D'accord ? C'est une convention de langage, mais qui a là derrière aussi des prises de position philosophiques. Il s'agit en réalité d'une famille confrontée, je parle celle de Joseph et de ses frères, à des rivalités normales que le génie narratif de l'écrivain sacré se plaît à exacerber. Encore que, nous aurons l'occasion de voir que ce n'est pas si exacerbé que cela. Je me souviens, un jour, il y a une mère de famille qui m'a montré le dessin de son petit bonhomme de 7 ans. Mais alors vraiment, un enfant tout à fait gentil, adorable avec sa sœur, enfin, vraiment un cœur, un ange. Et c'était un joli dessin qu'il avait offert à sa sœur. Et c'était un dessin où il avait fait un château fort sur un immense rocher et dans le rocher, une immense salle de torture. Et il avait écrit à sa sœur « Bienvenue dans ma salle de torture, voilà ce que j'ai préparé pour toi. » Et il lui avait donné avec un grand sourire. Vous voyez, l'histoire de Joseph n'est pas si étrangère à ce qui se joue profondément. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter, le tout à accompagner. Hein. Dans l'histoire de Joseph et de ses frères, la jalousie qui va proliférer comme telle est relativement normale. Le problème, c'est qu'elle est mal accompagnée. D'accord ? Nous y reviendrons. Il y avait aussi un enfant qui avait écrit comme ça. Aussi adorable, hein. J'aimerais bien qu'on jette mon petit frère dans les dans l'herbe, il deviendrait la mauvaise herbe et les orties, on mettrait de l'eau sale dessus. Mais ça fait partie de quelque chose de très naturel qui a besoin d'être accompagné, d'éduquer. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Quand c'est mal accompagné, évidemment, ça peut dégénérer. Hein. J'ai toujours été frappé, mais vous sans doute aussi, de l'extraordinaire rivalité qui peut ressurgir lors, par exemple, qu'on ouvre un testament. Hein. Les notaires, s'il y en a parmi vous, pourraient en témoigner. Hein. Pas toujours, hein. Il y a des successions qui se passent très très bien. Chez les frères, les mécanismes donc naturels du désir, Eros et Thanatos, sont de plus en plus profondément affectés par la jalousie et la haine, les frères de Joseph. Et Joseph aussi, qui, c'est une hypothèse de lecture que je vous propose, qui n'est pas si innocent que cela. Tous les pères de l'Église en ont fait un modèle de sagesse, ce qu'il est aussi, mais il y a quand même une certaine ambivalence chez Joseph aussi. Ils sont, pour reprendre le vocabulaire du livre de la Genèse, ces mécanismes naturels du désir, pervertis par la convoitise et la domination, ce qui donne de la jalousie et de la haine. Alors, passons au point 3, une parole malade. Je disais tout à l'heure que l'important, c'est de pouvoir accompagner. C'est le sens de la présence des adultes et des parents. Et bien, dans le cas de Joseph, l'accompagnement, en grande partie par la parole c'est le lieu où la liberté peut se déployer, n'est pas présente, en tout cas de façon suffisante. Et peu à peu, la violence s'installe, elle prolifère, elle se tapit dans de sombres replis et attend l'occasion pour bondir. Pour y faire un échec, un patient dialogue éducatif serait nécessaire. Des mots devraient être mis sur les sentiments menaçants, hérités en partie d'un passé transgénérationnel. Toute cette situation-là, ce n'est pas purement lié à Joseph en tant que tel, c'est aussi lié à ce qui s'est passé dans ses familles, chez M. Abraham, chez M. et Mme Abraham, chez M. et Mme Isaac, et dans sa famille de Jacob. Un travail intérieur donc devrait être mis en œuvre pour faire advenir à la parole ces conflits légitimes et les conduire vers un chemin de pacification. Or, en tout cas, pour l'instant, ça va venir. La parole va faire son chemin. Mais pour l'instant, un tel travail ne s'opère pas. Au contraire, la parole devient malade. Et de plus en plus. Jacob rapporte à son père des rumeurs mauvaises à propos de ses frères. Ceux-ci ne pouvaient plus lui parler en paix. Autre citation. Enfin, Jacob ne dit pas grand-chose. Le silence. Jacob, le père, il ne dit pas grand-chose. Perdu dans ses propres obscurités affectives, est-il en mesure d'exercer pleinement sa paternité ? Quoi qu'il en soit, la confusion et les non-dits ont tout le loisir de s'établir sous son toit. La haine s'infiltre partout. La seule parole véritablement digne de ce nom ne fait qu'exacerber la situation. Alors je vous la lis, chapitre 37, versets 6 à 7. Écoutez ce rêve que j'ai rêvé. C'est Joseph qui parle à ses frères. Écoutez ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous gerbions des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'était dressée et même elle restait debout. Et voici, elles l'entouraient, vos gerbes, et elles se prosternèrent pour ma gerbe. Imaginez de sortir une parole pareille dans cette situation. Et puis un peu plus tard, il remet ça. Et voici, j'ai rêvé un rêve encore. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient pour moi. Alors, non seulement c'est vous, mes frères et sœurs, mais aussi la lune et les étoiles, mes parents, nos parents. Un petit peu aussi la question, mais pourquoi est-ce qu'il partage ses rêves? Pourquoi? Alors ici, de nouveau, c'est pour ça que je dois vous avouer que je trouve que l'écriture est extraordinaire. Il y a plusieurs couches interprétatives, puisque nous sommes aussi complexes. Hein, et donc, il ne faut pas en choisir une contre l'autre. Mais voilà, je vous propose plusieurs ici. Il peut s'agir bien sûr d'un message crypté de Dieu, et on verra cela plus tard. Mais Dieu, remarquez-le bien, n'est pas mentionné ici, contrairement aux usages de la Bible en pareil cas. C'est nous qui disons que c'est un songe ou que c'est un rêve que Dieu lui donne, hein, parce qu'on connaît la fin. Mais pour l'instant, en tout cas, le narrateur ne dit pas que ça vient de Dieu. Est-ce qu'il s'agit d'une mystérieuse ébauche de l'avenir ? D'une naïveté d'un jeune homme qui frise la provocation et le défi. Regardez, j'ai rêvé, etc. Oui. Ou d'une volonté maladroite de renouer le dialogue dans une atmosphère qui ne cesse de s'alourdir. À trois reprises, Joseph raconte ses rêves. Parfois, comme ça, quand on est dans un contexte un peu conflictuel, et on voudrait dire quelque chose, et puis en fait, on ne fait qu'aggraver la situation. D'accord ? Ça arrive, hein ? Il y a peut-être de cela. Ou bien d'une ambition narcissique d'avoir la première place dans la fratrie et même dans la famille, ou bien un désir caché de rassembler les siens autour de lui. Il y a un souci continuel chez Joseph, hein, tout au long de ces chapitres, de rassembler. Là, il va voir les frères qui s'occupent du petit bétail, au tout début. D'une touchante candeur, il y a beaucoup de candeur chez Joseph aussi, hein. Il y a aussi d'une affirmation adolescente de soi, ou d'une recherche inconsciente d'une issue à une situation très, très problématique et qui peine à se connaître elle-même, ou encore de l'exercice d'un charisme que les autres frères n'ont pas. Nous ne devons pas choisir une des hypothèses. Tout ça est peut-être présent à un dosage différent. Et puis chacun de nous, on peut investir le texte avec ce qu'on est. Chaque interprétation possède sa part de vérité. Comment ses frères réagissent face à ce rêve qu'ils présentent de façon étonnante? 37.8. Régneras-tu sur nous ou domineras-tu en nous? Fort, hein? Régneras-tu sur nous ou domineras-tu en nous? Et ils le haïrent plus encore à cause de ses rêves et au sujet de ses paroles. Donc, ces rêves sont automatiquement interprétés dans le sens de la domination. Et Joseph ne répond pas. Il n'entre pas en dialogue. Pourquoi il aurait pu protester? À moins qu'il ne voie pas clair lui-même, ou que ses frères ne lui laissent pas l'occasion. Ou bien qu'il soit effectivement tenté par une attitude de domination vis-à-vis de ses frères. Je passe au point 4. Présence de Dieu. Il y a mon dos. Jusqu'à présent, Dieu semble absent de ce drame, y compris dans l'épisode des deux songes que je viens de mentionner. Nous étions habitués à une action quand même un peu plus vigoureuse et un peu plus immédiate de Dieu. Que fait-il? Alors, c'est pas n'importe quelle famille, hein. C'est quand même la famille en laquelle Dieu est en train de recréer l'humanité. En laquelle il veut bénir toutes les familles de la terre. C'est la famille qui est absolument vitale pour le futur de l'humanité. Vous imaginez l'état de maladie de cette famille-là. Ça vaut la peine de se mettre de temps en temps à la place de Dieu, hein, avec discrétion et humilité, mais enfin quand même. Moi, si j'étais à cette place, je réagis vite, quoi. Enfin, ouais, enfin, je vais pas laisser proliférer cette famille, je l'aurais couconné, vous voyez, je veux dire, j'aurais. Ben non, Dieu ne procède pas comme ça. Ça crée de l'angoisse. Je ne sais pas si. C'est le sort de l'humanité qui se se joue dans cette bête histoire familiale. C'est pas, et donc, de nos propres familles, ce sont les 12, ce seront plus tard les 12 patriarches qui sont les préfigurations des 12 apôtres. Et c'est vraiment le projet de Dieu qui est mis dans sa racine même, qui est mis en cause. C'est la jalousie qui infiltre tout. Il va de nouveau rater, de nouveau faire un déluge, il va devoir de nouveau tout confondre. Il avait pourtant promis que ça ne se ferait plus. Donc, on a presque. C'est la dernière chance de Dieu, on a l'impression. Encore qu'on ne sait jamais. Hein, la miséricorde de Dieu n'est jamais épuisée, mais enfin, quand même. Donc, je voudrais vous sentir le dramatique de cette situation. Comment transmettre la bénédiction de génération en génération à travers une famille aussi malade? Comment affronte-t-il les faiblesses d'un vieux père, la douce arrogance d'un adolescent de 17 ans et la jalousie féroce des 10 frères? C'est peut-être comme ça que Dieu transmet la bénédiction. C'est en rentrant dans la pâte humaine, en l'accompagnant et en lui permettant aussi d'expérimenter, de vivre ce qu'il a à vivre. Il ne faut pas répondre dès les premiers versets à cette question. Et il est bon que nous gardions cette question tout au long de ces deux cours, et puis même de l'ensemble des cours. Comment est-ce que Dieu agit dans nos familles? Et avec, parfois avec une tension intérieure, en disant, enfin, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas comme je penserais qu'il devrait agir? Moi, à sa place, je ferais comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas comme Caïn et Abel? Et encore, quand il agit avec Caïn et Abel, on se dit, mais enfin, est-ce qu'il n'est pas en train de précipiter les problèmes, puisqu'il choisit l'offrande d'Abel de façon préférentielle à l'offrande de Caïn. Et donc, il provoque la jalousie. Il permet à la jalousie d'exploser. Dieu agit quand même de façon assez mystérieuse. Donc, je ne voudrais pas que nous répondions trop vite à cette question, à laquelle nous ne répondrons jamais en totalité. Sauf peut-être dans l'au-delà. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que dans l'au-delà, on aura une connaissance qui est assez extraordinaire. Hein. Pour nous détendre un petit peu, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Je raconte de temps en temps des histoires d'enfants, parce que j'ai la chance de pouvoir souvent travailler avec des enfants. Il y a quelqu'un qui est venu, un enfant de 6 ans, qui m'a dit j'ai une grave question. Je dis, quoi ça? Ma grand-mère. Je dis, ah bon? Elle est morte. Alors je dis, oh, pauvre, etc. Donc, je l'accueille, quoi. Et je lui dis, elle est morte il y a longtemps? Il me dit, oh oui, 5 ans avant que je naisse. Je dis, mais pourquoi tu es triste? Eh bien, parce que j'ai peur que quand je vais mourir, elle ne va pas me reconnaître. C'est mignon, hein? Alors, j'ai essayé, mais je ne sais pas s'il a tout compris, mais parce que quand les enfants posent des questions, il faut les pousser, hein, il ne faut pas trop vite. J'essaie de lui dire que sa grand-mère est en telle communion avec Dieu, avec le Christ, ressuscité, qu'elle aurait la même connaissance que Dieu lui-même a de lui, et que lui aurait, enfin bref, qu'il y aurait une connaissance. Ben, voilà, dans le ciel, nous aurons peut-être une connaissance, nous aurons certainement une connaissance de la manière dont Dieu a agi et agit dans nos familles, mais il faut attendre encore quelques années. Une chose est sûre, dans l'histoire de Joseph et de ses frères, Dieu veille à ne pas se substituer aux différents acteurs. Comme tout bon parent, d'ailleurs. Il les laisse chacun à leur responsabilité. Il leur donne d'expérimenter les conséquences dramatiques de leur comportement. C'est une petite phrase que j'adore, que j'ai reçue du Père Chapelle. Le mal fait mal. C'est bête, hein, on a tous besoin d'apprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal pour l'apprendre, mais voilà. Le mal fait mal. Il met les enfants et les parents en situation de choisir le bien et la vie. Selon cette interprétation, Dieu n'abandonne donc pas du tout cette famille en détresse, parce qu'elle est vraiment en détresse, cette famille. Pas une famille qui va bien, comme on dirait aujourd'hui. Il prend acte de cette préférence de Jacob, avec tout ce qu'elle comporte d'obscurité, de lâcheté et d'injustice. Il ne se situe pas en dehors de son histoire, qui remonte à plusieurs générations, comme je vous l'ai dit, et qui dépend en partie aussi des mœurs de l'époque, et de toutes les époques, hein. « Il n'invente pas une légende idéale où tout irait bien dans le meilleur des mondes. Au contraire, Dieu respecte le jeu des libertés et des événements qui en découlent. Avec une patience infinie, je vous ai dit, hein, la question de la patience de Dieu, c'est quelque chose. Hein. Il va offrir aux différents personnages, personnes, la possibilité de transformer leur destin meurtrier en chemin de vie. Il va, pour ainsi dire, entrer par la porte de service de la maison dévastée. Nous verrons de quelle manière. Je voudrais simplement relever trois détails du texte qui sont significatifs dans un verset capital. Dieu aimait, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Je cite ici André Wena, qui est un exégète professeur à UCL, dont je me suis beaucoup inspiré. Je cite André Wena, que Jacob soit appelé ici Israël, comme je disais tout à l'heure, n'est peut-être pas neutre. Israël, en effet, est le nom qu'il reçoit au terme de la lutte nocturne contre l'ange, qui se solde par une bénédiction reconnue, ensuite comme venant de Dieu. C'est le nom que Dieu confirme lorsque, dans une apparition à Bethel, il explicite le contenu de la bénédiction. Ce serait donc en tant que béni de Dieu et en tant qu'élu qu'Israël préfère Joseph à tous ses fils. Une sorte de Dieu rentre dans cette situation. Je dirais pour ma part plutôt, le Dieu de l'élection et de la bénédiction pénètre à l'intérieur de la préférence désordonnée de Jacob. C'est pas parce que Jacob a cette préférence qu'elle n'est pas désordonnée. C'est pas parce que Dieu rentre dans cette préférence qu'elle n'est pas en elle-même désordonnée. Et à travers lui, à celle à l'œuvre dans nos propres familles. Bref, je laisse tomber les autres détails. Comme l'écrit un autre exégète, Luis Alonso Choquel, l'intervention de Dieu a changé de style par rapport aux autres épisodes. Il n'y a plus d'apparition, ni d'oracle, ni de vision, ni d'autel. Les songes qui dirigent les actions ne sont pas définis comme des visions envoyées par Dieu. Sans doute, Dieu agit-il dans cette histoire, mais discrètement, sans se faire remarquer à chaque moment. Fin de citation. Comme dans nos familles en général. Je passe au point B. Drame à 20 km de Sichem. La tension familiale devient trop grande. Et donc, on refait comme avec Ésaü et Jacob. Hein. Quand il y a eu une tension très grande entre Caïn et Abel, ils n'ont pas réussi à mettre de la distance. Ésaü et Jacob, bon, voilà, on a réussi à mettre de la distance. Là, on met de la distance. C'est comme quand vos enfants se disputent. Ben, vous les mettez, va dans ta chambre, et puis vous les séparez, d'accord ? On sépare les combattants pour éviter que ça dégénère. Très bien, quand tu seras calmé. Là, il y a, on met de la distance entre les antagonistes. Hein, souvenez-vous aussi, Lot et Abraham. Hein, le neveu d'Abraham et d'Abraham lui-même, on met de la distance. Sarah et Agar, on met de la distance aussi. Ben, bref, la mise en distance, même géographique, est un processus habituel dans l'écriture. Et ses frères allèrent pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem, 37-12. Joseph, lui, reste à Hébron, où ça, auprès de son papa. La division de la fratrie offre une certaine issue à la crise, du moins pour l'instant. Quelque temps plus tard, Jacob envoie Joseph retrouver ses frères. Va donc, vois la paix de tes frères, le mot shalom, paix, va ponctuer tous ces chapitres. Va donc, vois la paix de tes frères et la paix du petit bétail et fais revenir une parole. 37-14. Il envoie son fils à Sichem, donc c'est à 80 km de là, plus ou moins. Nous n'avons pas une oreille très éduquée, mais Sichem... Ça, d'abord, au niveau naturel, ça peut faire frémir, hein, de se dire envoyer tout seul un jeune garçon de 17 ans comme ça, avec une telle jalousie chez des frères, c'est quand il faut le faire, quoi. Hein, dire, qu'est-ce qui se passe chez le père, bon. Mais en plus, Sichem, c'est un lieu où il y a eu des événements très redoutables récemment. Si j'ai bon souvenir, c'est là où Dina a été kidnappée par le prince de cette ville, et puis elle a été violentée, et puis alors deux de ses frères sont entrés dans la ville, et contrairement aux demandes explicites à la fois du prince, qui à ce moment-là a voulu épouser Dina parce qu'il s'est attaché à elle, hein, les deux fils de Jacob ont massacré tout le monde. Il y a eu un effroyable bain de sang. Bon. Un point tel que, comme dit le verset 30 du chapitre 34, cette ville, c'est un endroit qui a fait le malheur de Jacob. Et voilà qu'il envoie que ses frères sont là, dans la situation de tension qui a été décrite, et que Jacob envoie son fils à cet endroit-là. Bon. C'est un lieu qui est passionnant. On aura l'occasion d'y revenir avec la Samaritaine. Hein. C'est un lieu vieux comme le monde, hein, où il y a tellement d'événements. Il n'y a pas que cet événement-là qui se sont passés. Il y a énormément d'événements extraordinairement importants qui se sont passés. C'est une des villes historiques les plus importantes dans l'histoire de l'humanité, en tout cas de l'histoire du peuple élu. Alors, comme je vois que le temps passe... je vais avancer un petit peu plus rapidement maintenant, en essayant d'aller à l'essentiel. Il cherche ses frères, il ne les trouve pas. Alors, il y a un homme qui vient. On peut se poser la question, est-ce qu'il est capable, dans une situation pareille, de trouver des frères? D'abord, il ne les trouve pas physiquement, bien sûr. Hein. Ils ne sont pas là où on pensait qu'ils étaient. Hein. Ils sont à Dothan, donc c'est pas Sichem, c'est un peu plus loin. Est-ce qu'il est vraiment capable? Et là, heureusement, comme dit le texte, alors ça je trouve c'est extrêmement mystérieux, un homme le trouve, l'interroge et le met sur la route de Dothan à 20 km, donc le trouve et l'interroge, qui était sur la route de Dothan à 20 km au nord de Sichem. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, enfin, peut-être, mais que vous êtes un peu perdu, que en général, on demande son chemin, d'accord? Et là, cet homme vient le trouver et l'interroger. Alors, dans le lecteur de l'Écriture que nous sommes, cela éveille la mémoire de ce mystérieux messager qui trouve Agar errant dans le désert, en 16:8. Des trois hommes qui s'arrêtent chez Abraham en Genèse 18:1, et de l'homme contre lequel Jacob a lutté toute la nuit au Yabok. Mais c'est une suggestion en demi-teinte, si vous voulez, mais qui est quand même forte. D'ailleurs, la majorité de la tradition juive interprète cette rencontre comme un ange. Hein. Une intervention divine, en tout cas. Alors, je passe au point 2. Soudain, passage à l'acte, changement de perspective. On n'est plus dans la peau de Joseph, comme lecteur. On se glisse dans la peau des frères. Et ils dirent, 37, 19, 20, et ils dirent chacun à son frère, voici le maître des rêves. Tiens, voici le maître des rêves. Il ne voit pas un frère, il voit le maître des rêves. Voici le maître des rêves, c'est celui-ci qui vient. Et maintenant, allez, tuons-le, jetons-le dans des trous, et nous dirons, une bête méchante l'a mangé. Et nous verrons ce que seront ses rêves. Décidément, la parole est bien malade. Pour l'instant, elle sert uniquement à comploter. La parole fraternelle qui ne sert plus à construire des relations fraternelles, mais à comploter contre l'un ou contre l'autre. À nouer un pacte d'injustice et à dissimuler la vérité. Nous dirons, une bête méchante l'a mangée. La bête méchante en question n'est-elle pas en réalité la même que celle qui est tapie en Caïn, au chapitre 4, verset 26? Remarquez qu'aucun des frères n'adresse la parole à Joseph, dont aucun son ne sort. Pas même une plainte. Alors, Ruben va essayer de Ruben, c'est l'aîné. Hein. Les aînés, on essaye toujours que les choses se passent bien. Quoi. Mais Ruben, donc il est responsable naturel de ses frères. Mais est-ce qu'il parle pour sauver la fraternité ou par calcul? Parce que vous savez que Ruben a été complètement déconsidéré par son père, il risque de perdre son rang d'aîné, d'aîné depuis qu'il a couché avec une des quatre femmes de son père, Bila, en 35, 21, 22. Et donc, il risque de perdre sa place d'aîné. Oui, c'est une famille quand même relativement problématique, d'accord ? Quoi qu'il en soit, les comploteurs dépouillèrent de sa tunique, dépouillèrent Joseph de sa tunique, la tunique d'apparat qui était sur lui, deux fois la tunique, une sorte d'obsession de la tunique. On ne voit plus la personne qui a la guerre, on ne voit plus que la tunique. Je vous ai dit la fois passée que on pourrait relire l'ensemble du livre de la Genèse comme un jeu de vêtements. On n'arrête pas de se dissimuler derrière un vêtement à plusieurs moments. C'est-à-dire le jeu des apparences. Ils le prirent et le jetèrent dans le trou, et le trou était vide, et il n'y avait pas d'eau dedans, et ils s'installèrent pour prendre le repas. Souvenez-vous de la petite parole, il faudrait qu'on le jette dans la mauvaise herbe et qu'il devienne des orteils. Il y a de ça. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ça ne leur coupe pas l'appétit. D'accord ? Ceci étant dit, de façon cryptée, c'est l'annonce qu'auprès de Joseph, on peut manger. Ce sera plus tard le premier ministre, l'économiste génial, le prévisionnel, etc., qui, autour duquel... Il y a une annonce cryptée de cela. Mais c'est un repas inique aussi. C'est un repas qui renvoie au repas de Genèse 3, d'Adam et Ève. Et donc, ils font passer ce jeune maître du statut de privilégié à celui d'esclave. Ce faisant, en le dépouillant de sa tunique, ils lui rendent un sacré service, entre parenthèses. Surgissent des Ismaélites, mais ça je vais laisser pour plus tard. Ils vont le vendre en Égypte. Enfin, c'est assez intéressant. Ils vont le vendre sans le vendre. Alors, mettez-vous un peu dans la peau des frères. C'est pas si difficile que ça, après tout. Vous avez commis un acte aussi terrible, le plus simple quand même de dire, c'est... Il faut trouver une explication. Moi, si j'avais été à leur place, je dirais à leur père, je dirais à mon père, on ne l'a pas vu, tellement plus simple. Mais là, ils imaginent un truc, mais compliqué. Une bête méchante l'a mangée, il trempe dans le sang, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Pourquoi ce mensonge ? Un mensonge, plus il est simple... plus il est facile à tenir. D'accord ? Plus on met des détails, plus on risque de s'embrouiller. Et ils sont 10, donc il ne faut pas qu'ils se trompent. Donc, ils ne choisissent pas la facilité. Alors, je vais d'abord donner le sens littéral du texte, et puis après on pourrait développer ça dans un sens plus même psychologique. Le vocabulaire utilisé dans ces versets renvoie discrètement à la cérémonie du Yom Kippour, ou du Grand Pardon. Je cite en Lévitique 16, 7, 10, « Aaron prendra deux boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il tirera les sorts pour les deux boucs, attribuant au sort un sort au Seigneur et l'autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort au Seigneur et en fera un sacrifice pour le péché. » Quant au bouc sur lequel est tombé le sort Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur pour faire sur lui le rite d'expiation, puis l'envoyer à Azazel dans le désert. En fait, Joseph est comme un bouc émissaire dans ces deux dimensions. Il ressemble au premier bouc chargé des péchés d'Israël et expulsé au désert, vers une terre éloignée. Par ailleurs, le jeune homme à la tunique ensanglantée est également configuré au bouc égorgé en sacrifice, dont le sang versé permet la réconciliation. La réintégration des coupables et la reconstruction d'une nouvelle communauté. Mais avant de parvenir à ce résultat, donc c'est de nouveau une annonce cryptée de la vie. Ces récits n'ont pas été écrits en 5 minutes ou en un an, etc. C'est le fruit d'une tradition orale de génération en génération qui a médité, qui a creusé, qui s'est transmis avec tout le travail de la mémoire. Il y a des richesses extraordinaires dans ce texte. Eh bien, ce vocabulaire du Yom Kippour est présent dans l'utilisation dans le stratagème utilisé par les frères. Alors, d'un point de vue psychologique, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus, mais je continue. Donc, pourquoi est-ce qu'il utilise cela ? On est de l'ordre de la convenance hein, psychologique, on n'est pas de l'ordre de la nécessité. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont le faire en direct, mais ils vont mettre devant les yeux du Père une tunique ensanglantée. Cette fameuse tunique qui les a fait souffrir. Comme s'ils disaient, ils voulaient envoyer un message codé à leur Père. Regarde un peu ce que toi, ta préférence, a causé comme malheur. Une sorte de volonté d'accuser le Père. Une volonté aussi de... c'est de l'ordre de la convenance symbolique. Hein. C'est ton amour injuste qui est responsable de ce sang. Maintenant, le cercle familial va devoir se reconstituer sans lui. Aime-nous enfin comme un père digne de ce nom. Donc, il y a cela aussi qui est en jeu. Alors, ils arrivent, enfin, ils députent des gens pour... parce qu'ils sont prudents. Et les frères envoyèrent la tunique ornée, ils la firent porter à leur père avec ces mots, c'est pas eux-mêmes qui la portent, comme dans le tableau de Rembrandt. Rembrandt a montré les frères, mais en fait, ils envoient quelqu'un. Hein. Il n'y a que le chien qui aboie, parce que le chien, c'est un symbole de fidélité, perçu que ce n'était pas le sang de Joseph. Voilà ce que nous avons trouvé, reconnais donc, est-ce la tunique de ton fils ou non ? Et Jacob l'a reconnu et dit, « La tunique de mon fils, une bête méchante l'a mangée. Il a été déchiqueté Joseph. » Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. Et il se mit en deuil au sujet de son fils de nombreux jours. Et tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Et il dit, « Oui, je descendrai vers mon fils en deuil au Sheol. » Et son père pleura. 37, 32 à 35. Joseph s'installe dans le malheur. Il refuse de se laisser consoler, même par ses filles. Il ne peut pas ou ne veut pas faire le deuil de son fils disparu. Il ne le laisse pas partir, mais s'accroche désespérément à lui. Plus que jamais, il garde son fils préféré, présent auprès de lui, dans une relation mortifère avec son spectre. « Oui, je descendrai vers mon fils en deuil au Sheol. » On entend presque du Shakespeare là derrière. Il ne parvient pas ou ne veut pas parvenir à mettre en œuvre ce qu'enseigne Ben Sirac le Sage plus tard. C'est très beau, ça. Ben Sirac le Sage au chapitre 38, versets 16 à 22. Répands tes larmes pour un mort, pleure amèrement, frappe-toi la poitrine, puis console-toi de ton chagrin. Car le chagrin mène à la mort. Un cœur abattu perd toute vigueur. N'abandonne pas ton cœur au chagrin, repousse-le. Dès qu'un mort repose, laisse reposer sa mémoire, console-toi de lui dès que son esprit est parti. C'est vraiment une sagesse profonde. Hein? Alors, Joseph ne met pas en application cela. Mais par ailleurs, il possède un long passé de ruse. Je vous ai dit, c'est une famille de rusés. Hein? Vraiment. Ils sont des... Lui-même, dans sa jeunesse, n'a-t-il pas trompé son vieux père en endossant les habits d'Ésaü ? Il sait bien qu'on peut jouer avec les habits. Et lui-même n'a pas été trompé hein, par les habits de Léa qui était empaquetée hein, le jour de son mariage en disant « c'est Rachel ». Il sait que les apparences peuvent être trompeuses. Au moyen de ce déguisement, lui-même n'a-t-il pas réussi à supplanter son propre frère, le préféré de son père ? Parce que Ésaü était le préféré d'Isaac. Il ressemblait davantage à Ismaël. On verra ça plus tard. Il n'a pas vu le corps de Joseph, ni même sa tombe. Il ne peut pas ne pas nourrir certains doutes. Quelle est donc cette bête méchante qui a déchiqueté et mangé son fils ? C'est le tapis en Caïn, chapitre 4, verset 26. Aussi, en refusant de faire son deuil, le vieux père met la stratégie de ses fils en échec. Désormais, sa souffrance lancinante contribuera puissamment à unifier le récit et à le faire évoluer. Voilà, alors je vais laisser les chapitres, le point C, hein, mais nous aurons l'occasion de poursuivre cette histoire la fois prochaine et de montrer, la fois prochaine, nous nous attacherons à voir tout le chemin de réconciliation. Il y a déjà des éléments qui sont présents, mais tout le chemin de réconciliation. Je vous remercie. Bonne nuit.